redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Quatrième série, les chroniques délinquantes de la vie en rose. Épisode numéro 5. Chronique numéro 19. Y a-t-il un régime dans la salle ? Socialiste, péquiste ou Scarsdale ? Montréal, 28 mars 85. Ma chère S, j'ai très hâte à vendredi soir parce que ce soir-là, je vais rien faire. C'est prévu. Je vais seulement rencontrer Marie-Hélène pour lire le régime Scarsdale avec elle au cas où on réussirait à s'encourager au niveau de la perte de poids. Tout le monde emploie cette expression « au niveau 2 », alors je l'essaie de temps en temps pour comprendre pourquoi. À ton avis, l'ai-je bien utilisé dans cette phrase ? Je devrais peut-être dire « dans le cadre de la perte de poids », qui est également une expression très portée en ce moment. « Fat is a feminist issue », dit un célèbre livre américain. « Dans le cul », je réponds, aux prises avec de non moins célèbres livres « En trop ». Le mois de mai, celui de Marie, est arrivé, et avec lui le syndrome du costume de bain, la névrose de la peau à griller et la psychose des yeux des autres. Et plus on a de la surface à griller, moins on a tendance à la montrer, et plus on voit le derrière de tête du monde plutôt que leurs yeux convoiteurs. J'ai toujours été très forte au niveau des théorèmes de ce genre, et aussi au niveau de la taille, depuis quelques années, funeste entre toutes. Alors, je prends les grands moyens. Je serai mince comme un fil, à tout le moins comme une corde, à ton retour fin mai. Combien tu gages ? Tu ne me reconnaîtras pas à l'aéroport. Ce sera bien parce qu'on pourra refaire connaissance et je me ferai présenter à toi par quelqu'un qui nous connaît toutes les deux et que j'avertirai avant. Fais ta mise. J'ai besoin de challenge, comme tu peux le constater. Perdrai-je 2 livres, 15 livres, 30 livres ? À mon avis, c'est 140 que je devrais perdre. Je traverse une petite dépression, excuse-moi. Au lieu de perdre du poids de ce temps-là, je perds du moi. Lourd. Dis-moi, t'es pas game. Comment ça, je suis pas game ? Que je répondrai. Tu vois, l'orgueil marche bien mieux que la volonté qui n'a jamais fait ses preuves dans mon cas. Tu n'en reviendras pas quand tu reviendras. Je serai rayonnante avec la tête haute, et peut-être que je porterai des robes avec un sourire irrésistible au niveau de la face, et que j'aurai plus le goût de porter des affaires de fille. Peut-être. Je ne peux pas savoir quel genre de choc culturel je vivrai quand je serai mince. J'irai peut-être jusqu'à porter des talons au niveau des pieds, parce que je serai plus sûre de moi quand je marcherai, et je mettrai du keul parce qu'on m'aimera beaucoup. J'ai toujours été vaguement mégalomane. On me prendra pour une autre et j'aimerais ça. Peut-être même que je changerai de nom et que j'arrêterai de me ronger les ongles et les doigts parce que ma fixation orale aura maigri avec le reste. Et de toute façon, j'aurai moins de peau à bouffer au niveau des doigts. Tu penses que je délire ? Que je vire obsessive ? Erreur, tu verras. Je vais pouvoir enfin regarder mon miroir dans les yeux vu que, actuellement, il ne sert pas à autre chose qu'à vérifier ma coiffure. Ce qui est un bien grand mot pour ces poils aussi délinquants que leurs porteuses, et à me péter quelques boutons ou points noirs selon la période du mois. Alors il souffre de dévalorisation. Je lui trouve mauvais teint. Je n'ai jamais fait de régime de ma vie. Ça paraît d'ailleurs. Il est temps que je m'y mette. À nous deux, Monsieur Scarsdale. J'espère en tout cas que j'ai choisi le bon régime parce que je n'y connais rien. C'est exactement comme en politique. Tout le monde se pose la même question en ce moment au niveau du régime. Pour faire exprès, au niveau de l'humiliation, je suppose que j'aurai engraissé de 15 livres quand on se reverra. Mais tu verras, tout le monde se claquera sur les cuisses en lisant cette lettre parce que plus le propos est mince, plus le rire est gras. Surtout quand on vient de livrer son intimité au grand complet sur un plateau. C'est interdit l'intimité sur plateau dans Scarsdale. Je t'embrasse, mais ne t'inquiète pas, je ne partirai pas avec un morceau de toi, je suis moins vorace qu'on le prétend. Postscriptum. Mais vu que je n'aime pas la maigreur excessive, je me garderai quelques rondeurs secrètes juste pour moi. Ce moi que j'espère retrouver avant ton retour, en vue d'une sorte d'égalité dans la rencontre. Si je n'existe pas, comment pourrais-je te retrouver ? Logique. Mai 1985. Note de 1988. Ma stratégie a bien fonctionné. À force de parler de mon excès de poids dans toutes les chroniques, les gens ont fini par croire que je devais peser dans les 300 livres au moins. Alors, quand ils me rencontraient, ils me trouvaient très très mince. Sensation très satisfaisante. Chronique numéro 20. Y a-t-il un misérable mouton dans la salle ? Ou « Tout ce qui brille est or ». nouvellement raciste, à cause de ma déplorable chronique sur les Français de février dernier, j'expérimente des sensations voluptueuses et inédites qui me remplissent d'un nirvana très païen. J'ai été ainsi baptisée, raciste, après avoir énuméré quelques défauts des Français, Françaises, même pas tous, en oubliant malencontreusement leurs grandes qualités. J'aurais manqué d'espace. Alors voici la preuve que je suis non seulement raciste, mais récupératrice à mort. Et si vous pensez que mes propos sur les Français, Françaises, sont un monument de méchanceté, tenez-vous bien, racisme bien ordonné commence par soi-même. D'où me vient ce racisme subi ? Il a bien commencé quelque part. Je cherche dans mes plates-bandes, dans les lieux communs abondants qui me poursuivent de leur mollesse vertigineuse, comme d'aucuns d'aucune l'ont déjà judicieusement observé, et je trouve « Québécois égale petit égale peureux égale colonisé égale porteur d'eau égale rien du tout. Même pas égal à lui-même, manque d'envergure, peur de son ombre, un peuple de concierges. Et si j'ai le malheur de tomber par hasard dans un taxi sur l'émission de CKAC, les amateurs de sport, j'ai l'impression affolante que tous les lieux communs ont raison d'un coup. » Les amateurs en question, ceux qui téléphonent, n'en sont même pas au premier balbutiement du français. Parlons plutôt de borborygme. Ils ne parlent de la nervosité de la POC, des trous dans le net, et pleurent sur les fragiles genoux de Svoboda. Les médecins devraient changer de public cible et prescrire des Valium aux amateurs de hockey sur le Groner plutôt qu'à leurs femmes, épuisées par l'annuelle guerre du hockey. Bon, je vais me faire traiter d'intellectuel, j'en mettrai ma main au feu. Le Québec est le seul pays au monde où le mot « intellectuel » est une insulte. Certains, certaines intellectuelles, même se défendent de l'être, comme si c'était une maladie honteuse. J'appelle ça le syndrome de Jean-Baptiste. Traitez-moi d'intellectuel, j'aime mieux avoir un gros bleu sur la joue et être remarquée que vivre esthétiquement parfaite, mais enterrée de mon vivant. Cette société n'est même pas fière de ses artistes, de ses créateurs et de ses créatrices. Au Québec, tout ce qui brille est or, suspect. Pourtant, on se vante d'être l'un des pays au monde où il y a la plus forte proportion d'artistes par tête de pipe. J'en ai personnellement marre d'entendre cette affirmation gratuite quand je sais trop bien qu'on s'empresse de brandir nos artistes comme des drapeaux pour impressionner la visite, mais qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux et elles une fois la visite repartie. Les gouvernements préfèrent toujours donner les plus gros morceaux du gâteau aux producteurs et aux compagnies, vu que les artistes sont des êtres irresponsables par définition et que Dieu sait ce qu'ils et elles inventeraient s'il fallait les subventionner directement. Les producteurs, au moins, savent faire des déficits comme du monde, puisque ce sont des gens sérieux. Et parce que ce sont les artistes qui ont fait élire le Parti québécois, on sabre dans les budgets de la culture au Québec pour ne pas avoir l'air du vulgaire patronage. Ça n'existe pas, d'abord. Et on sabre également dans les budgets de la culture au Canada pour les punir d'haïr le fédéral. Ce genre de logique fait partie du patrimoine, on ne peut rien contre le folklore. Pour finir, les jeunes qui, traditionnellement, ne veulent rien savoir, s'en mêlent. Dans La Presse du 18 avril, deux articles, sans aucun rapport apparent mais l'un sous l'autre, titrent « Selon le Conseil de la langue française, les jeunes se soucient peu de la survie du français. » Puis « 10 000 étudiants se mobilisent pour la récupération du papier. » Donc, la récupération est plus importante que la langue qui aurait pourtant elle-même bien besoin de recyclage. Plutôt qu'une grammaire, on leur propose une belle poubelle de papier usagé. La langue en compote et le souci du compost. Bravo. Comme si c'était l'un ou l'autre. La prochaine génération sera sourde à cause des Walkman et autres sources de son à plein volume, et muette parce qu'elle ne pourra plus parler que par monosyllabes. Mais elle aura appris à ramasser le papier sur lequel d'autres auront écrit. Alors, la langue au panier avec le papier à recycler. Et vive l'Amérique enfin uniformisée, enfin nivelée. On pourra enfin suivre Uncle Sam, se mêler à la foule de ses nombreux disciples sans avoir à survivre en français à tout moment de la journée. C'est fatigant à la longue. Les années Mulroney à venir semblent vouloir nous amener le repos, éternel, en tant que 52e État des États-Unis. Quand il est reparti à la mi-mars, « The Irish guy was smiling » dans sa barbe parce que le Québec est le seul pays au monde où il ne peut pas faire d'insomnie. Il vient de tomber dans une talle de moutons à compter, chef d'État québécois et canadien en tête de troupeau. Aucune pénurie en perspective. Hélène Petrovski-Pedneau. Postscriptum. Avec cette chronique, je devais pouvoir enfin entrer dans le CDLMSPE, le club de la méchanceté section presse écrite, avec mes collègues admirés, Nathalie Petrovski et Pierre Foglia. À moins qu'il et elle ne me refusent sous prétexte que je ne suis pas encore assez méchante. Je pense que je ne peux guère faire mieux, sauf quand je parle de Luc Plamondon. Mais je remarque tout à coup que les journalistes les plus méchants ne sont pas des Québécois, Québécoises pure ceinture fléchée, moi-même étant à moitié italienne. Les étrangers, étrangères sont donc méchants, méchantes avec les Québécois, québécoises. Tous et toutes des racistes. Juin 1985.
Avait une capacité comme ça à aller... Qui c'est qui me disait ça, Nicole, peut-être ? Elle avait pas peur de déranger.
Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non. Et d'ailleurs, je dois pas être la seule qui l'a dit, mais... Elle me manque beaucoup dans l'espace public. Comme parole, comme présence, comme regard aussi. Un regard toujours amoureux, finalement, même si c'était choqué, même si c'était, tu sais, c'est particulier, son regard. C'est toujours amoureux, toujours. Elle aimait les êtres humains. Même si c'était très solitaire, tu sais, puis qu'elle avait un côté très solitaire chez elle, là. Bon, comme tous les créateurs, les écrivaines, j'imagine.
Chronique numéro 21, y a-t-il un dictionnaire dans la salle ? Ou comment je vis ma fixation orale ? Ma voisine d'en bas me téléphone. As-tu une carotte à me passer ? Perplexe, je réponds. Qu'est-ce que tu veux dire par carotte ? Elle sait pourtant que je n'ai jamais rien dans mon frigidaire. Pourquoi me demande-t-elle à moi une carotte ? Et pourquoi juste une carotte ? Pourquoi pas plusieurs ? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec une carotte ? Le mot carotte veut-il bien dire la même chose pour elle et pour moi ? Y a-t-il un objet que je ne connais pas et qui s'appellerait aussi carotte ? On n'est jamais assez prudent avec le vocabulaire. Les mots sont des gouffres sans fond, des fossés à côté desquels le Grand Canyon fait figure de simple craque dans le plancher. Mais voyons, Hélène, une carotte, c'est une carotte. J'ai besoin d'une seule pour une recette que je suis en train de faire. J'ai réussi à mêler ma voisine d'en bas. Je ne sais pas si elle va pouvoir terminer sa recette tellement je l'ai perturbée. Le pire, c'est que j'ai répondu, non sans vérifier, mais j'avais un sac complet de carottes, ces genres de bâtons orange qu'on mange cru ou cuit selon les goûts et les modes de cuisine. Quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que je ne savais plus le sens des mots, même les plus courants. J'étais découragée. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi être mêlée. Essayez donc de dire le mot « chatte » devant un Français un peu lubrique. Ça ne passe pas sans un sourire ou une phrase à double sens obligatoire. Les gens ne pensent plus, ils arrière-pensent. Où les mots sont dirigés directement en bas de la ceinture, ou alors ils sont dirigés directement au cerveau, froid, clinique, imbuvable. On saute par-dessus le milieu de ce temps-là, justement là où est le cœur. Moi-même, quand je lis ou entends l'expression « avoir les yeux bandés », je ne peux pas m'empêcher de voir des yeux sortis de leur orbite allongés et durcis. C'est rendu que je ne suis plus capable de savoir si j'aime mes amis, si je les affectionne, si je les désire ou si je les chéris. Un peu de tout ça, rien de tout ça, une seule de ces réponses. Je n'ai plus aucun discernement. Alors, non seulement on vient mêler dans les mots, mais aussi dans les sentiments. Suite logique, quand on n'est plus capable de rien nommer comme du monde, on finit par se tromper de réalité, et on se retrouve dans la fiction à temps plein. Je t'aime. Bientôt, on se fera répondre à tout coup. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je te désire. Quoi ? Encore quelqu'un qui veut quelque chose de moi ? Veux-tu dire intellectuellement ou physiquement ? J'aurais envie de dire, moi, c'est les deux, mais je ne le dirai pas. Personne n'a besoin de savoir que j'ai une conjonction Vénus-Mercure dans ma carte du ciel. D'ailleurs, c'est clair que les mots sont des problèmes. Denise m'a dit qu'elle avait lu qu'une femme sur trois, au-dessus de 30 ans, vit seule à Paris. Ici, ça doit être pareil. On est rendu qu'on communique mieux avec des chats, une TV ou un sac de poubelle. Plein de préférences. Quand on rencontre quelqu'un, quelqu'une pour la première fois, il faudrait se faire un lexique avant d'aller trop loin. Comme ça, on pourrait chercher et trouver le sens des mots de l'autre. Un dictionnaire par individu que ça prendrait. Larousse, Quillet et Robert ont complètement raté leur coup. Leurs dictionnaires ne servent à personne. Déjà qu'avec la loi 101 et la fierté nationale, il avait fallu se rappeler qu'un hood, c'est un capot, qu'un dash, c'est un tableau de bord, et qu'un bumper, c'est un pare-choc. Des grands mots comme ça, nos vies avaient changé botte par botte. Maintenant, il semble qu'il va falloir se souvenir de tous ces mots bénis et anglais, de notre enfance heureuse, un autre U-turn en perspective. Et c'est là qu'on se demande si ce sont les structures de cette société qui rendent le monde paranoïaque, ou si c'est chaque individu de cette société qui devient de plus en plus paranoïaque et qui fait que toute la société a l'air paranoïaque, au grand complet. Tiens, un mot. Psy. C'est fou la vitesse fulgurante avec laquelle les mots de la psychiatrie sont entrés dans notre vocabulaire de tous les jours. Ce ne sont pourtant pas des mots anglais. En se faisant cuire un œuf aujourd'hui, on peut très bien dire « je suis tellement névrosée » sans que la personne qui nous écoute rie aux larmes. Ou de quelqu'un que c'est un psychotique parce qu'il tarde à payer son compte de téléphone. Ou que c'est un schizophrène parce qu'elle aime être chez elle. Des choses comme ça. C'est le temps des gros mots écrasants pour décrire les petites réalités banales. Et on n'emploie jamais les mots impunément. À force de les dire sans y penser, on finit par les vivre. D'ailleurs, je vous préviens, tous les mots que je viens d'employer pour cette chronique ne sont pas les bons. Ils veulent dire autre chose que ce qui est écrit. Cherchez. Je rêve d'une société muette, où les gens devront se toucher pour se parler. Mais il paraît que même les gestes sont suspects. On peut les interpréter de mille et une manières et se faire demander autant de comptes que pour un mot incompris. Que faut-il faire si on ne veut pas être la femme sur trois qui vit seule ? Je n'en ai aucune idée. Laissez-moi seule avec ma fixation orale. Septembre 1985.
Hélène, c'était beaucoup. C'était le beaucoup, le plein, la vie, l'amour, la révolte, l'indignation, mais un sens de l'humour, le rire d'Hélène Penneault. C'est mon entrée au TF, c'est ce rire-là qui m'a accueillie. Dans une période qui était dure pour les féministes, mais ce rire-là m'a toujours portée.
Chronique numéro 22. Y a-t-il une primeur dans la salle ? Ou confession simultanée du Titanic et de son iceberg. Je suis née exactement 40 ans après le naufrage du Titanic, un 14 avril. Cette coïncidence m'a toujours vaguement perturbée. J'ai eu longtemps, et encore maintenant aux pleines lunes, des allures de naufrage qui se cherchent un endroit pour arriver. Dans mes moments de dérapage intense, comme en ce moment, je vais même jusqu'à penser que je suis ou la réincarnation du Titanic, ou celle de l'iceberg qui a naufragé le Titanic, puisqu'ils se sont rencontrés un 14 avril, à une heure qu'on peut aisément qualifier de fatidique. J'ai appris cette malencontreuse coïncidence très jeune. Nous avions chez nous l'encyclopédie Grolier, qui répertoriait allègrement ce genre d'événements et quelques autres plus heureux. Ça part mal une vie. Mon côté iceberg se manifeste surtout devant les gérants de banque à l'air embaumé. Voulez-vous l'adresse de cette succursale de la Banque Nationale ? Les vendeurs et les garagistes qui sont intimement persuadés que je ne suis qu'une fille, les menteurs, les crétins et les peureux. Et là, je dois malheureusement ajouter le féminin aux trois derniers termes. Ah, si les femmes pouvaient être parfaites. Vieil espoir de vieille féministe. Bref, je m'en sers tous les jours parce que, quand on est une naufragée d'avance, on n'a strictement rien à perdre. Rien du tout. Par exemple, on peut dire à un petit patron de Radio-Canada que c'est un crétin, parce que c'est vrai. Évidemment, ce genre de réaction impulsive n'aide pas à se faire une petite vie bien tranquille ou à garder sa job longtemps. Ce sont les risques du métier de naufragée. Parce que, même si mon côté iceberg devait plutôt être naufrageur, je me retrouve toujours naufragée. Et je deviens titanique. C'est curieux. L'un et l'autre en même temps, comme on ne sait jamais entre un bourreau et une victime si le bourreau est bien celui ou celle qu'on pense. C'est mêlant. Je parle fort, je me choque noir parfois, je me défends, je lutte, et c'est moi qui sombre. Ce n'est quand même pas normal. Le Titanic était justement un très grand bateau qui avait l'air très fort. Il a sombré en une demi-heure. Ça doit être ça qui m'arrive. Je ne dois pas avoir une force réelle, bien ancrée. Alors comment faire ? Parce qu'on ne peut quand même pas impunément se permettre tant de naufrages dans une vie. Analysons froidement la situation, comme seul un iceberg peut le faire. Et n'allez pas croire que je suis déprimée pour faire ça. Au contraire, il y aurait tant de choses à faire sombrer dans cette société, à commencer par les émissions de variété à la télévision, les radios AM et le spécialiste du marketing. Il faut absolument apprendre à appliquer les techniques du naufrage ailleurs que sur soi-même. Ma démarche est donc pleine d'espoir. La plupart des femmes que je connais sombrent avant même d'ouvrir la bouche. Le résultat est le même que moi, sauf qu'elles risquent des ulcères ou de l'eczéma, que je n'aurais pas. Dans ce cas, les techniques d'apprentissage du naufrage à l'extérieur de soi diffèrent légèrement. Elles doivent apprendre à parler alors que je dois apprendre à me taire, dans le but d'être enfin stratégique. Apprendre à bien flusher m'apparaît un strict minimum. Il faudrait commencer à se pratiquer sur de petites choses à la maison, sans témoin. Comme par exemple, tirer la chasse d'eau et aimer ça. En ce qui concerne la vaisselle, il est préférable de la regarder en sachant qu'on pourrait la casser n'importe quand, parce que si on la casse pour vrai, on devra en racheter, et la punition ne tombe pas alors sur la bonne personne. En plus, on passera pour des hystériques auprès des voisins, ce qui n'est pas souhaitable dans notre plan. Éviter d'être repéré est une des premières règles d'un iceberg qui veut accomplir sa tâche. En second lieu, il faut absolument se pratiquer sur des êtres vivants avec leur assentiment, bien sûr. Un ou une meilleure amie sera parfait pour l'occasion. En tant que meilleure amie, ils savent bien ce qu'ils ont à endurer, alors n'ayons pas peur d'abuser. Il faut essayer des attitudes diverses, comme on essaie des vêtements, jusqu'à ce qu'on trouve celle qui nous va comme un gant, ou dans l'expression de l'agressivité, ou dans le silence contrôlé. Parce que j'ai quand même eu le temps de remarquer, à travers mes nombreux scolaires, que les gens qui n'élevaient jamais la voix et gardaient leur calme étaient des winners. Je vais m'empresser d'appliquer cette réflexion dans ma vie. Je vais garder mon calme, sourire même en disant tout ce que je veux dire malgré tout. Et là, je deviendrai redoutable. On fondera le club des redoutables, dont la devise sera « impitoyable mais souriante ». Et plus personne n'osera nous vendre une guerre des étoiles, par exemple, parce qu'ils sauront d'avance que ça ne passera pas. Ils se mettront peut-être à faire des choses bien. Moi, je veux le sourire de la Joconde, celui qui dit « cause toujours mon lapin, moi je sais où je m'en vais ». Et tes Pershing, tu peux te les mettre où je pense, et que ça saute. Octobre 85. Vous venez d'entendre des chroniques délinquantes de La vie en rose de Hélène Pennot, ainsi que des éléments d'entretien avec Louise Laprade et Ginette Noiseux. Redécouvrir Hélène Pennot, une série de balados proposée par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Gros.